France Culture.
Le journal est signé Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Israël respecte la trêve à Gaza mais lance une opération militaire à Jenin en Cisjordanie occupée. L'autorité palestinienne dénombre 9 morts et 40 blessés. Nous joindrons notre correspondant Thibault Lefebvre. À peine arrivé à la Maison Blanche, Donald Trump a accordé sa grâce présidentielle à plus de 1500 personnes ayant participé à l'assaut du Capitole. Une annonce qui fait réagir aux États-Unis, nous le verrons avec Sébastien Paour. Les valseuses, tenues de soirée, Trop belle pour toi, Bertrand Blier, dont on a appris la mort à la mi-journée, laisse derrière lui des films anticonformistes, férocement drôles, dérangeants aussi, nous y reviendrons avec Héloïse Roger. Et pour financer la protection sociale, faut-il mettre à contribution certains retraités? La suggestion de la ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, fait débat, y compris dans son camp, nous expliquera Rosalie Lafarge. Le chef de l'état-major de l'armée israélienne démissionne. Le général Herzi Halevi reconnaît sa responsabilité dans l'échec de l'armée le 7 octobre 2023, quand le Hamas a mené une attaque terroriste sans précédent contre Israël. Dans sa lettre de démission, le général écrit « Ma responsabilité dans ce terrible échec m'accompagne au quotidien et m'accompagnera toute ma vie ». Il constate aussi que tous les objectifs de la guerre, la riposte israélienne, ne sont pas atteints. La trêve entre Israël et le Hamas, entrée en vigueur dimanche, est pour l'instant respectée. Un deuxième échange doit avoir lieu samedi. 4 otages israéliennes contre des prisonniers palestiniens. Mais cette trêve est bien fragile. D'autant que l'armée israélienne a lancé aujourd'hui une opération d'envergure en Cisjordanie occupée. L'autorité palestinienne annonce au moins 9 morts et 40 blessés. Israël a nommé cette opération, qui pourrait durer plusieurs jours, mur de fer. Selon le Premier ministre Benjamin Netanyahou, l'objectif de cette opération est d'éradiquer le terrorisme à Jenin. Le reportage de Thibault Lefebvre.
Nadjet vit dans le camp de réfugiés de Jenin. Au moment où nous avons pu la joindre, elle venait d'en sortir.
Il y a eu un bombardement. Il y avait les forces spéciales qui sont rentrées. Et après, c'est les forces militaires, c'est les jeeps, c'est les hélicoptères militaires, les avions militaires qui bombardent. Il y a des blessés.
Depuis près d'un mois, le camp est assiégé par les forces de l'ordre de l'autorité palestinienne. Elles se sont retirées la semaine dernière après avoir considérablement affaibli les miliciens des différents groupes islamistes. L'État hébreu a décidé ce matin de frapper fort avec cette opération d'envergure qui rappelle à Nadjet la bataille de Jenin de 2002, quand plus de 50 Palestiniens et 23 soldats israéliens sont morts lors d'une semaine particulièrement sanglante.
Ce qui s'est passé en 2002 et ce qui s'est passé à Gaza, on a le même destin, parce qu'Israël va commencer par les camps de réfugiés de Jenin. Elle l'a commencé déjà, c'est pas la première fois. Mais cette fois, je pense qu'elle sera plus violente qu'avant, comme en 2002.
Le rétablissement de l'ordre en Cisjordanie est un nouvel objectif de guerre du gouvernement israélien et une promesse de Benjamin Netanyahou à son extrême droite, qui menace de faire tomber la coalition au pouvoir si les combats ne reprennent pas à Gaza.
Thibault Lefebvre, notre correspondant à Jérusalem. Donald Trump n'a pas perdu de temps. À peine investi, le nouveau président des États-Unis a signé une série de décrets sur l'immigration, l'énergie, le climat, les droits de douane. L'un d'eux fait beaucoup réagir dans le pays, celui par lequel Donald Trump accorde sa grâce à la quasi-totalité des émeutiers du Capitole. Environ 1500 personnes condamnées après la prise d'assaut du 6 janvier 2021 et parfois emprisonnées. Ces émeutiers sont libérés ou voient leur peine commuée. Une décision incompréhensible pour les policiers qui sont intervenus ce jour-là, Sébastien Paour.
Plus de 140 policiers ont été blessés pendant les 7 heures qu'a duré le siège du Capitole, et parmi eux, Michael Fanon, officier à la police de la ville de Washington à l'époque, frappé violemment à plusieurs reprises ce jour-là par plusieurs personnes qui criaient « Trump a gagné ». Il a perdu connaissance le 6 janvier sur les marches du bâtiment et il est sous le choc 4 ans après avec cette grâce quasi générale.
I have been betrayed by my country.
J'ai été trahi par mon pays
by those that supported Donald Trump.
Et par ceux qui ont soutenu Donald Trump.
6 individuals who assaulted me.
6 individus qui m'ont agressé alors que je faisais mon travail le 6 janvier, comme des centaines d'autres agents des forces de l'ordre, vont maintenant être libérés.
Will now walk free.
Michael Fanon rappelle encore sur CNN qu'il a reçu des menaces de mort depuis qu'il a témoigné devant la commission d'enquête parlementaire. Il dit « Ma famille, mes enfants et moi-même sommes moins en sécurité aujourd'hui à cause de Trump et de ses partisans ». Dans le décret de Trump, à part 14 membres des groupes d'extrême droite Proud Boys et Oath Keepers, tous les autres bénéficient d'une grâce totale. Ça veut dire qu'ils vont retrouver leur droit de vote et de posséder une arme.
Sébastien Paour, à Washington, parmi les décrets déjà signés par Donald Trump, celui autorisant le retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, ça n'est pas une grande surprise. Jérémy Lange, le président républicain, reproche notamment à l'Agence de l'ONU pour la santé son supposé laxisme à l'égard de la Chine.
Juin 2020, Donald Trump annonce qu'il retire son pays de l'OMS en pleine pandémie de Covid. Retrait en forme de punition. Pour le républicain, l'agence a fait preuve d'une indulgence coupable à l'égard de la Chine et l'émergence de ce qu'il appelle alors le virus chinois. Joe Biden mettra fin à la procédure avant qu'elle n'aboutisse, mais la rupture est consommée. D'autant que Trump est convaincu que sans la pandémie, il aurait sans doute été réélu. Alors maintenant que c'est fait, le 47e président des États-Unis reprend là où il s'était arrêté. Du côté de l'OMS, on dit espérer que Washington fasse machine arrière. Tariq Jazarevitch est le porte-parole de l'agence.
En 2023, les États-Unis ont versé l'équivalent de 18% de notre budget total. Ce sont les premiers donateurs de l'OMS. On va devoir regarder quelles sont les conséquences de ce retrait. Mais en attendant, notre travail continue. On est là tous les jours à vous expliquer ce que l'on fait à Gaza, au Yémen, au Soudan ou dans d'autres pays. Et on compte bien continuer notre travail.
Reste une dure réalité quand on a un budget de 6,8 milliards de dollars, c'est-à-dire moins que l'APHP à Paris, on peut difficilement faire la même chose avec 1 milliard en moins dans les caisses. La Chine, qui appelle à un renforcement de l'OMS plutôt qu'à son affaiblissement, pourrait en profiter pour remplacer politiquement les États-Unis. Mais on la voit mal, les remplacer financièrement. Pékin est un petit contributeur au budget de l'agence et c'est bien ce qui fait enrager Donald Trump. L'année 2025 commence en tout cas très mal pour l'OMS, elle qui vient tout juste de lancer un appel pour trouver 1,5 milliard de dollars pour soutenir 42 urgences sanitaires à travers le monde.
Jérémy Lange, correspondant de RFI et France Culture à Genève. Et les annonces économiques de Donald Trump inquiètent beaucoup de pays, à commencer par le voisin canadien. Selon ce qu'a laissé entendre le président américain lors d'une conférence de presse assez chaotique hier, ses marchandises se verraient imposer une surtaxe de 25% dès le 1er février. Un coup dur pour une nation qui exporte 75% de ses biens vers les États-Unis. Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a réagi en tendant la main à son homologue américain. La correspondance de Pascal Guéricola.
Face aux menaces de taxation, Justin Trudeau joue la carte de la collaboration avec son plus important partenaire commercial. Le premier ministre plaide que les États-Unis n'ont pas intérêt à pénaliser leurs voisins. Pourquoi? Parce que les Américains peuvent compter sur les ressources naturelles disponibles au Canada pour développer leur économie et atteindre la prospérité.
Ils vont avoir besoin de plus d'énergie, plus d'acier, plus d'aluminium, plus de minerais critiques. Et le Canada représente le meilleur partenaire, le plus proche, le plus fiable que les États-Unis ont dans le monde entier.
Le premier ministre canadien a mis en lumière les liens commerciaux qui unissent les deux pays de part et d'autre de la frontière. Une frontière dans laquelle le Canada va investir 700 millions d'euros pour renforcer sa sécurité. Cependant, si les États-Unis vont quand même de l'avant avec leurs menaces, le Canada a un plan pour répliquer. Justin Trudeau.
S'il y a des tarifs injustes, on va répondre de façon robuste et on va être là pour soutenir les Canadiens et protéger nos intérêts.
Les représailles canadiennes pourraient passer par une surtaxe de produits américains dont la liste n'est pas encore connue.
Hier, à la cérémonie d'investiture de Donald Trump, son visage est apparu juste derrière celui de Barack Obama. Le milliardaire français Bernard Arnault a fait partie des invités de premier ordre de l'événement, installé juste derrière les anciens présidents américains. Bonsoir Diane Berger.
Bonsoir.
Le patron de LVMH, numéro 1 du luxe français, connaît de longue date Donald Trump.
Leur rencontre remonte au début des années 80. Peu après l'élection de François Mitterrand, Bernard Arnault part aux États-Unis. Il tente sa chance pendant pendant 3 ans à New York dans le monde de l'immobilier. Et le personnage incontournable du secteur à l'époque, c'est Donald Trump. Un lien ancien qui fait qu'en janvier 2017, à quelques jours du début du premier mandat du président américain, le premier grand patron français qu'il reçoit, c'est Bernard Arnault. Pour le PDG de LVMH, maintenir de bonnes relations avec Donald Trump, c'est d'autant plus crucial que les États-Unis sont l'un des principaux marchés de son groupe. Le pays représente le quart du chiffre d'affaires de LVMH, souligne Isabelle Chabou, directrice du Master Luxe à Grenoble École de Management.
Les Américains sont des gros consommateurs de produits de luxe, par exemple les vins et boissons, les champagnes notamment, sont des clients aussi dans la joaillerie. Et c'est une des raisons pour laquelle LVMH a racheté Tiffany en 2021 pour conquérir encore plus le marché américain. Ce sont des clients aussi qui sont intéressés par la maroquinerie. Et également, LVMH a ouvert un atelier dans le Texas pour produire des sacs Louis Vuitton directement aux États-Unis.
Donald Trump s'était d'ailleurs rendu à l'inauguration de cet atelier texan aux côtés de Bernard Arnault. LVMH a aussi acheté des domaines viticoles aux États-Unis, des sites de production sur place très stratégiques, alors que le président républicain brandit toujours des menaces de surtaxes douanières. Produire sur le sol américain pourrait bien permettre aux milliardaires français de protéger ses intérêts.
Diane Berger. Cinéaste de l'anticonformisme, de la provoque, Bertrand Blier est mort hier soir à 85 ans. Il avait créé le duo Depardieu-Devers pour Les Valseuses, devenu film culte. On lui doit aussi Buffet froid, Tenue de soirée avec Michel Blanc, Trop belle pour toi avec Carole Bouquet. C'était un dialoguiste hors pair. Bonsoir Héloïse Roger.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à toutes et à tous.
Dès ses débuts, Bertrand Blier a divisé, créé la polémique pour son plus grand plaisir, Héloïse.
Il aimait la vulgarité, l'humour noir et cru, un univers cinématographique propre à lui. Il grandit sur les plateaux de cinéma, dans les pas de son père, Bernard, et c'est comme cela qu'il apprend, puis qu'il se distingue par son cynisme, son non-conformisme, ses dialogues et un style bien à lui.
On n'est pas bien ? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander.
Bertrand Blier explose en 1974 avec Les Valseuses, film adapté de son propre roman. Une dérive provocante déjà par le titre qui ne désigne pas des danseuses mais bien des testicules. Il est interdit au moins de 18 ans à sa sortie puis au moins de 16 ans à la télévision. Les Valseuses, c'est aussi la révélation de 3 acteurs, Patrick Devers, Gérard Depardieu et Miu Miu. On y voit les 2 hommes qui harcèlent, agressent les femmes en toutes circonstances et déjà à cette époque, les répliques sont provocantes, les scènes dérangent, mais le succès est au rendez-vous avec près de 6 millions de spectateurs. Aujourd'hui, le film divise et suit les critiques pour sa misogynie et sa façon de mettre en scène la domination masculine. Sur France 2 l'an dernier, l'actrice Brigitte Fossé, qui a joué aussi dans le film, a même refusé de revoir une scène où les 2 acteurs phares l'agressent dans un train, la qualifiant d'horrible et soutenant par la même occasion la prise de parole de Judith Godrèche au César sur les violences sexistes et sexuelles dans le monde du cinéma. Cette sexualisation des femmes, cette apologie du masculinisme, Bertrand Blier, lui, s'en amuse. 4 ans après, il réalise « Préparez vos mouchoirs », toujours avec le même duo Depardieu-Devers, incapable de satisfaire une femme, en l'occurrence l'actrice Carole Laure.
T'as besoin de changement, une autre gueule, un autre épiderme, une autre paire de couilles.
Alors là, les couilles, je vais te dire, j'en ai vu suffisamment comme ça.
C'est une simple question d'hygiène, on s'encroûte là, on s'asphyxie. Faut s'aérer.
Il remporte avec ce film l'Oscar du meilleur film étranger en 1979. Le réalisateur provoque de nouveau avec Tenue de soirée en 1986, cette fois en abordant l'homosexualité, le trio amoureux avec Michel Blanc, Miu Miu et encore une fois Gérard Depardieu.
Mais mon pauvre ami, si j'étais vraiment pédé, il y a longtemps que tu y serais passé la casserole, enfin. Réfléchis un petit peu, un mec comme moi. Je te coince entre 2 portes et hop, bonjour le chocolat, ramonage du boyau, la turbine ensorcelée, rouleau de printemps, bout d'un créole. Je te sers un coup de pommard. Ça rime avec braquemar. Puis avec Canular aussi.
Acteurs et réalisateurs sont inséparables. Écoutez Bertrand Blier à ce propos, c'était en 2010 sur notre antenne au micro d'Arnaud Laporte.
À chaque fois que j'écris quelque chose, je pense à Gérard. Donc,
il est inspirant.
Il est inspirant et puis j'ai vécu avec lui beaucoup quand même. Depuis tout ce temps, on a partagé beaucoup de choses. On est fait pour travailler ensemble. Donc moi je suis fait pour écrire pour lui et lui pour jouer mes films.
Il aura réalisé en tout 9 films avec l'acteur. Alors que ce dernier est accusé d'agression sexuelle et de viol par plusieurs femmes, en 2023, Bertrand Blier fait partie des 50 signataires du monde du cinéma à soutenir Gérard Depardieu. Une prise de position et une filmographie clivante, 50 ans plus tard, bousculée par l'évolution de notre société, l'arrivée du mouvement MeToo et la libération de la parole des femmes dans le monde du cinéma pour dénoncer les agressions sexuelles.
Merci Louise Roger. Je renvoie vers le site de France Culture pour d'autres informations sur le cinéaste Bertrand Blier. Faut-il mettre certains retraités à contribution pour financer la protection sociale ? La ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, a mis cette idée sur la table ce matin. D'après elle, il y a différentes taxes et cotisations qui pourraient être envisagées sur les retraités qui peuvent se le permettre. Elle a mentionné les pensions au-dessus de 2000 ou 2500 euros. Mais Matignon réagit en précisant qu'il s'agit d'une position personnelle de la ministre, position qui est loin de faire l'unanimité, y compris parmi les députés Ensemble, Rosalie Lafarge.
On trouve peu de monde pour applaudir franchement l'idée de mettre à contribution des retraités. Au mieux, certains ne ferment pas la porte à la discussion. Perrine Goulet au Modem.
Ça ne me paraît pas non plus être, j'allais dire, un totem à ne pas toucher.
Frédéric Valtouche et Horizon.
C'est pas illogique de poser la question.
Ou Éléonore Carrois au Groupe Ensemble.
C'est forcément un débat compliqué, mais je pense qu'il ne faut pas s'interdire en tout cas le débat.
Le Groupe Ensemble qui s'est réuni ce matin, la ministre Astrid Panosyan-Bouvet y a admis s'être exprimée à titre personnel, soulevant une question qui serait de toute façon soumise aux parlementaires, comme pour tenter d'éteindre un incendie déjà lancé en interne. Le vice-président de ce même groupe Ensemble, Mathieu Lefèvre.
Je pense que c'est une bien mauvaise idée. Quand on a travaillé toute sa vie, on doit vivre des fruits de son travail. On ne résoudra pas les problèmes de ce pays en taxant. On a un niveau de prélèvement obligatoire qui est devenu aujourd'hui insupportable. En rajouter, c'est ajouter de l'insupportable à l'insupportable.
Alignement total sur la position de Marie-Christine Dalloz au sein de la droite LR. Elle ne soutiendra pas cette éventuelle contribution censée servir à financer la branche autonomie de la sécurité sociale.
Faire financer par les retraités à partir de 2000 euros leur propre avenir en matière d'autonomie, c'est pas juste. C'est une reconnaissance du travail antérieur, il ne faut pas l'oublier.
À Matignon, on insiste, pour l'instant, rien n'est acté sur tous ces sujets. Il n'y a pas de piste privilégiée. Le temps actuel est celui du Parlement, souligne encore un conseiller qui voit dans la polémique du jour une illustration de la liberté laissée par François Bayrou à ses ministres. Il les a nommés pour leur personnalité, à eux d'assumer.
Rosalie Lafarge à l'Assemblée. Autre sujet qui risque de faire débat, le grand projet de loi sur la fin de vie, interrompu avec la dissolution, pourrait être scindé en deux. Selon l'entourage de François Bayrou, le Premier ministre souhaite un texte sur les soins palliatifs et un texte sur l'aide active à mourir. Deux textes qui seraient examinés dans le même temps parlementaire, l'un à la suite de l'autre. Le Rassemblement national trouve que c'est une bonne idée. À gauche, le député socialiste et rapporteur du premier texte, Olivier Falorni, juge cette proposition artificielle et lui préfère faire une réponse globale. La Confédération des petites et moyennes entreprises a un nouveau président, Amir Reza Tofighi, 40 ans, succède à François Asselin, qui était en fonction depuis 2015. Le nouveau patron de la CPME dirige l'entreprise de service à la personne Vitalliance. Après l'axe Paris-Lyon, la compagnie ferroviaire Trenitalia annonce l'ouverture d'une liaison entre Paris et Marseille, à raison de 4 trajets par tour par jour à partir de la mi-juin. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir les kiffeurs.
Avec cette annonce, la compagnie italienne se positionne sur l'une des lignes les plus rentables de la SNCF.
Oui, même si Trenitalia indique ne pas avoir pour l'instant la capacité de concurrencer pleinement la SNCF sur le marché du TGV, ce n'est pas un hasard si la compagnie italienne a choisi l'axe Marseille-Lyon, car c'est l'axe le plus rentable. Et c'est pourquoi Trenitalia espère bien engranger de nombreux bénéfices, comme l'explique Marco Capocciuc, le président de Trenitalia France.
Nous avons étudié les marchés, nous avons vu que la relation sur l'axe sud-est est très importante. La relation Paris-Marseille connecte les 3 plus importantes villes de France, Paris, Lyon et Marseille. Et donc nous pensons que c'est un marché très important à cultiver. La croissance sur la Paris-Lyon était de 40% et donc nous espérons de faire la même chose sur la Paris-Marseille.
Alors si pour l'instant en France, la concurrence sur les TGV est minime, avec juste 7 rames, chez Trenitalia et son concurrent espagnol Renfe, d'ici 2030, elle représentera 20% du marché des TGV en France. La SNCF et le gouvernement planchent donc sur un projet pour inciter les compagnies étrangères à se positionner également sur les lignes TGV les moins rentables, comme par exemple l'axe Paris-Dijon, en leur proposant par exemple des péages moins importants. Alain Krakowicz, directeur général de TGV Intercité chez SNCF Voyageurs.
Moi, je trouve normal que le gouvernement ait lancé cette réflexion qui permette de se dire que, alors même qu'on a aujourd'hui un système où les lignes rentables financent les lignes non rentables, quand nos concurrents vont arriver sur ces lignes rentables, de fait, cet équilibre ne tiendra plus. Et donc, c'est normal qu'il y ait une réflexion collective.
Pour autant, la prudence reste de mise, Aurélie, car en matière de concurrence, c'est la Commission européenne qui aura le dernier mot et elle pourrait bien juger ce dispositif comme étant déloyal.
Hakim Kasmi, Nicolas Bazire, ancien directeur de campagne d'Edouard Balladur, est relaxé en appel dans le volet financier de l'affaire Karachi. Pour la Cour d'appel de Paris, le lien n'était pas établi entre des commissions occultes perçues sur des contrats d'armement et la campagne présidentielle perdue en 1995 par l'ancien Premier ministre Edouard Balladur. Le temps sera gris demain et de nouveau pluvieux, en particulier sur la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie. Les températures seront plus douces, de 1 à 8 degrés du nord au sud le matin, de 5 à 14 l'après-midi, 15 à 18 au pied des Pyrénées.